RCF. RCF Finistère, une fois pour tous.
Dieu est malmené aujourd'hui, il y a d'un côté ce qui tue en son nom et de l'autre ce qui le rend responsable de toutes les intolérances, les monothéismes étant alors considérés comme source potentielle de violence. La révélation biblique pourtant nous conduit sur un tout autre chemin. Seconde émission avec le frère Jean-Michel Grimaud, abbé de Landévennec. Et il nous fait faire un parcours dans la parole de Dieu pour retrouver la saveur de celui dont l'Évangile nous apprend, à distance de toute violence, qu'il est au contraire doux et humble de cœur. Nous sommes dans l'Exode pour cette seconde émission, devant le buisson ardent. Ce terme est très rare dans la Bible, c'est ce que va nous expliquer maintenant le frère Jean-Michel.
Il s'agit là, en fait, d'entrer, si on veut, dans l'expérience de Moïse lui-même. Donc, Moïse dit en lui-même, voyant ce buisson ardent qui ne se consume pas, « Faisons un détour et voyons cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela depuis le milieu du buisson et lui dit « Moïse, Moïse ». Il répondit « Me voici ». Et il dit « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Voilà, c'est quelques versets qui décrivent la rencontre de Moïse avec Adonai, avec le Seigneur. Eh bien, il y a deux verbes, les verbes « voir » et « dire », qui sont un petit peu les deux verbes clés de ce passage. D'abord, la vision. Faisons un détour et voyons cette grande vision. Donc, la vision conduit à un événement de parole. Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela. Donc on a au départ quatre verbes qui concernent la vision, et puis ensuite on passe au verbe qui concerne le dire. Dieu l'appela, et il dit, et Moïse répondit, et il dit. Voilà, donc la vision qui conduit à un événement de parole. L'immédiateté de la vision appelle la médiation de la parole, qui elle libère de la fascination du regard et ouvre le chemin de la relation, de l'écoute, de la parole échangée. Donc on peut dire que dans cette expérience spirituelle-là, la vision fonde le croire dans une expérience, on pourrait dire, mystique, sensible, mais cette expérience ne prend sens que si elle débouche sur une parole qui en donne raison. Et tel est bien ce qui se passe ici, parce que toute la suite du récit, jusqu'à la fin du chapitre 4, va se structurer sur le mode d'un dialogue entre Dieu et Moïse. Et donc, non seulement Dieu révèle son nom dans cette rencontre avec Moïse, Adonai, je suis qui je serai. Mais théologiquement, le Seigneur se révèle dans ce récit fondateur comme un Dieu personnel, un Dieu de relation, un Dieu qui appelle, qui entend, qui répond. La médiation de la parole dévoile à la fois la proximité et l'altérité de Dieu. Il se fait proche, mais demeure autre. Voilà, Moïse doit donc demeurer à distance, respecter la sainteté de Dieu. Voilà, Dieu se fait proche, mais demeure autre. Donc on est dans une relation, parce qu'il n'y a pas de relation, et on le voit bien dans les relations humaines, il n'y a pas de relation humaine sans à la fois proximité et altérité. Et c'est la grâce de la parole échangée qui permet cette relation, parce qu'autrement on est soit dans la fusion, soit dans la violence, ou dans l'ignorance. Voilà, la parole elle permet cette circulation, cet échange. Et voilà, donc Dieu se révèle comme un Dieu de la parole dans ce récit fondateur de l'expérience de Moïse à l'Horeb. Et alors, à l'initiative de Moïse, qui se détourne pour voir, répond celle de Dieu qui appelle. Donc, il est remarquable qu'ainsi s'instaure un dialogue dans lequel jamais Moïse n'est amputé de sa part d'initiative. Dieu le respecte, prend en compte ses objections, respecte son humanité en somme et le rejoint aussi et lui répond là où Moïse avait autrefois perçu la souffrance de son peuple. Parce que lorsque le Seigneur lui dit « j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son cri, je connais ses souffrances », dans ce double « j'ai vu la misère de mon peuple », d'une certaine manière, le Seigneur rejoint Moïse dans ce que lui avait perçu aussi, puisque au chapitre 2, lorsqu'il avait assassiné un Égyptien, c'était parce qu'il avait vu que cet Égyptien maltraitait des Hébreux. Moïse avait vu la servitude de ses frères, il avait alors pris une initiative meurtrière qui l'avait conduit à l'exil, une initiative personnelle qui n'entrait ni dans le plan de Dieu, ni ne pouvait recevoir son assentiment. Donc, de ce point de vue, on peut dire que ici, dans ce récit, commence un nouveau départ pour Moïse, qui sera marqué par le renoncement à la violence au profit de l'obéissance à la parole de Dieu qui le conduit sur un chemin tout autre. Donc c'est intéressant de voir que Dieu rejoint Israël et Moïse dans une préoccupation de justice qu'il avait, mais il va lui donner la possibilité de servir la libération de son peuple par les moyens de Dieu qui ne sont pas les moyens violents.
Sur RCF, suite de votre émission Une fois pour tous avec le frère Jean-Michel Grimaud, abbé de Landévennec, autour du thème « Je suis doux et humble de cœur » ou « Comment Dieu se fait proche ». Et nous allons maintenant nous arrêter un moment sur ce qu'on pourrait appeler le récit de la vocation de Moïse. Et Moïse qui s'interroge « Qui suis-je moi pour aller trouver Pharaon ?»
Moïse est impressionné par la demande qui lui est faite. Et ça, c'est une chose heureuse. Les gens qui se croient appelés sans l'avoir été n'ont pas conscience de ce qui leur arrive. Moïse, lui, il est appelé et donc il tremble devant cet appel. Hein. Donc Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu lui dit, « Je serai avec toi. » Et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc déjà, sur le plan humain, il y a quelque chose de très beau, c'est que Moïse a conscience de ses limites. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon ? Voilà. Et donc, voilà, c'est heureux de sentir que le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, à l'appel de Dieu, il a commencé par dire non. Il a commencé par résister. Et même, il y a tout un débat, parce qu'à un moment donné, il va dire, mais Moïse lui dit, mais excusez-moi, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier. Voilà. Et puis à la fin, Dieu se fâche un peu en lui disant, mais écoute, bon, il y a ton frère, il parle bien, il parlera pour toi. Donc ça veut dire que Dieu, il appelle vraiment Moïse. Et du côté de Moïse, il y a cette conscience de sa limite. Hein. Et c'est parce qu'il a conscience de sa limite, parce qu'il a conscience de la responsabilité qui lui est confiée, qu'il commence d'abord par résister. Et donc, je crois que quand nous sommes appelés, il est bon de savoir résister d'abord, avant de consentir à l'appel de Dieu, parce que si nous résistons d'abord, ça veut dire que nous avons un certain sens du réel, et que nous avons conscience que, par nos propres mains, nous ne pourrons pas mener à bien ce à quoi le Seigneur nous appelle. Mais c'est justement là, que ce sont là les serviteurs que le Seigneur recherche, parce que les gens qui sont sûrs d'eux, eh bien, ils risquent de faire leur propre volonté, et ne pas faire la volonté de Dieu qui les appelle, qui leur ouvre un projet. Alors donc voilà, donc on voit bien la belle personnalité de Moïse qui apparaît ici. Et puis on peut ajouter ceci, le « qui suis-je moi » contraste avec « je suis moi hein, » de Dieu. Donc, qui exprime à travers cela son assistance. Hein. Voilà. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et puis Dieu qui lui dit au verset 12, je serai avec toi. Voilà. Donc, à la fragilité de Moïse répond la promesse d'assistance, je suis de Dieu. Alors, autre élément important qui exprime là quelque chose, une couleur qui est du côté de la foi de Moïse, le je serai avec toi hein, donc qui est déjà une révélation du nom divin pratiquement, parce que je suis qui je serai, la révélation du nom divin que va recevoir Moïse. Donc Dieu se révèle à Moïse comme celui qui est avec, comme celui qui se fait proche. Voilà. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement précieux dans l'expérience croyante. Le Dieu auquel nous croyons, il est le Dieu qui nous accompagne, qui est avec nous, Dieu avec nous. Ça, c'est, voilà, et c'est ça le cœur de la bonne nouvelle, je pense qu'il est là.
Alors, et Moïse qui est appelé à faire un saut dans la foi.
Et Moïse est appelé à faire un saut dans la foi parce que le signe, voici le signe qui va te montrer que je serai avec vous, vous servirez Dieu dans cette montagne. Alors, ce qui est paradoxal dans le signe donné à Moïse, c'est qu'il s'agit d'un signe qui ne se réalisera que lorsqu'il sera effectivement sorti avec le peuple d'Égypte. Donc, le signe va se réaliser quand ce que Dieu lui demande de faire aura été accompli. Autrement dit, Moïse est appelé à faire un saut dans la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dira de manière très belle. « Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, du Pharaon. Comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. » C'est ça l'expérience de la foi. C'est croire sans voir, comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Donc Moïse a tenu ferme dans la foi, à travers la nuit de la foi, pourrait-on dire. Et donc le « je serai avec toi », qui est aussi là donc une révélation du nom divin, c'est cette promesse-là qui le fait tenir dans la foi. Et donc au cœur de la foi d'Israël, il y a de fait cette certitude de la présence de Dieu auprès des siens. Mais je trouve là, ce comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, hein, en ce début du 21e siècle, dans un pays occidental comme la France, pour les chrétiens que nous sommes, eh bien, nous sommes vraiment dans le temps de la foi. Nous sommes dans un temps de la foi. C'est pas si évident que cela de croire. Eh bien, il nous faut vivre ce temps aujourd'hui où beaucoup de gens se détournent de la foi chrétienne ou s'en sont éloignés peu à peu. Eh bien, il nous faut tenir ferme comme si nous voyions l'invisible. Et je pense que finalement, à chaque génération, hein, il nous faut être renouvelés dans cette expérience de foi qui nous fait percevoir la présence de Dieu dans le quotidien.
Sur RCF, votre émission Une fois pour tous avec le frère Jean-Michel Grimaud, nous faisons un parcours biblique pour évoquer ce Dieu doux et humble de cœur qui se fait proche, un Dieu qui se révèle aussi petit à petit. Écoutez le frère Jean-Michel.
Là, on voit quelques éléments de la révélation de Dieu dans cette manifestation à Moïse à l'Horeb, d'une part, le « je serai avec toi », cette promesse d'assistance. La révélation d'un Dieu humble, on l'évoquait avec ce buisson ardent, dans l'humilité d'un arbuste, Dieu se manifeste. Et puis, Moïse, qui est choisi pour être témoin de ce Dieu humble, de ce Dieu sauveur, et de manière assez humoristique, pourrait-on dire, dans la suite du récit, de manière un peu humoristique, on pourrait dire que dans la suite de ce récit, c'est Moïse qui va atténuer la colère, la supposée colère de Dieu.
Alors on peut dire que dans cette première rencontre entre Moïse et le Seigneur, qui lui révèle son nom comme une promesse d'assistance, « Je serai avec toi », donc se révèle un Dieu de dialogue et un Moïse qui est un peu comme un partenaire humain de ce Dieu.
Moïse, médiateur entre Dieu et son peuple, c'est un petit peu la vocation qu'il a reçue, et il va l'être jusqu'à s'oublier lui-même. Et c'est ce qui commence de se passer dans ce récit, puisque désormais, Moïse ne fera plus justice en son propre nom, manifestant ainsi une réelle humilité, et il ira même, dans la suite de son épopée, si on peut dire, aller jusqu'à limiter les accès de la colère divine, se révélant ainsi un médiateur pacifique entre Dieu et son peuple. Parce qu'il y a des moments où Dieu est un peu fatigué de la difficulté du peuple à répondre à son appel, à choisir la liberté plutôt que la servitude. Et alors, donc, dans ces moments-là, on pourrait dire de cette manière, Dieu s'énerve. Et donc, Moïse, il vient apaiser la colère de Dieu. Et on peut dire que, mystérieusement, il se révèle comme ce médiateur que Dieu voulait pour son peuple, finalement. N'était-ce pas la raison pour laquelle le Seigneur l'avait choisi, hein ? Donc, le Seigneur, heureux de trouver, par la voix de Moïse, une voix humaine pour l'inviter à préférer la miséricorde et le pardon au couperet de la justice. Et donc, c'est ainsi aussi que Dieu se révèle un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, dans cette aventure qu'il conduit avec son peuple. Et donc, à ce moment-là, Moïse se fait le témoin de ce Dieu lent à la colère et riche en pardon. Alors cela se vérifie dans différents épisodes, en particulier au moment de l'épisode du veau d'or. Le veau d'or, c'est ce moment où Moïse est parti parler avec Dieu dans la montagne, et puis le peuple resté dans la plaine se met à fondre de l'or et construire un veau en or pour l'adorer. Donc c'est vraiment de la profanation, un sacrilège, se détourner de Dieu. Alors à ce moment-là, le Seigneur, voyant cela, dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, je vais les exterminer. Mais de toi, Moïse, je ferai une grande nation. » Alors le narrateur poursuit, « Moïse s'efforça d'apaiser la colère du Seigneur. » Et puis Moïse rappelle au Seigneur sa promesse de postérité faite aux patriarches Abraham, Isaac, Jacob. Autrement dit, Moïse ne se laisse pas tenter, illusionner par la proposition divine de faire de lui, Moïse, une grande nation au détriment de ceux qui avaient reçu cette promesse, Abraham, Isaac, Jacob. Ainsi, en rappelant Dieu à ses engagements, Moïse se révèle un serviteur vraiment désintéressé, humble, pacificateur. Voilà, donc la figure de Moïse qui apparaît là. Et puis, au chapitre 12 du livre des Nombres, à un autre moment de conflit, quand Myriam et Aaron, le frère et la sœur de Moïse, commencent à le critiquer parce qu'il a pris une femme étrangère. Tiens, comme par hasard, Moïse a épousé une femme étrangère. Cela ne plaît pas à tout le monde. Et donc, il mène campagne contre lui en cherchant à ruiner son autorité. Et à ce moment-là, c'est le Seigneur, Dieu lui-même, qui prend l'initiative d'intervenir et de prendre la défense de Moïse. « S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui. C'est en songe que je lui parle. Il n'en va pas ainsi de mon serviteur Moïse. Toute ma maison lui est confiée. Je lui parle face à face. » Littéralement, le texte hébreu, c'est « panim el panim », bouche à bouche. « Je lui parle face à face, dans l'évidence, non en énigme. Et il voit la forme du Seigneur. Alors pourquoi avez-vous osé parler contre mon serviteur Moïse ? Voilà, donc là, la colère de Dieu s'enflamme contre Myriam et Aaron qui étaient jaloux. Et donc, elle s'enflamme sa colère à tel point que Myriam devient lépreuse. De Aaron, on ne sait pas ce qui lui est advenu. Bon. Alors Moïse implore et obtient la guérison de sa sœur. Donc on comprend qu'un tel épisode renforce la perception humble et non violente de ce Moïse dont Dieu a fait son serviteur. Et le narrateur ne s'y trompe pas, qui justement précise à ce moment-là, donc c'est Nombre chapitre 12 verset 3, je crois, le narrateur écrit « Moïse était un homme très humble ou doux, l'homme le plus humble ou doux que la terre ait porté. » Alors, le texte hébreu emploie un terme « Anna », mais qui peut se vocaliser de deux façons différentes, ce qui suggère, parce que « Anna », c'est plutôt l'humilité, humble, mais le changement de vocalisation suggère qu'il ne faut pas comprendre ce mot dans son sens habituel de « humble » et de « pauvre », mais dans un sens plus large qui englobe la dimension de douceur. Et c'est ainsi que le commentaire rabbinique le comprendra, qui traduira par le sens de pauvre et paisible, un homme pauvre et paisible. Et c'est aussi ainsi que la traduction des Septante, donc deux siècles avant Jésus-Christ, c'est ce sens-là que retiendra la traduction en grec des Septante, qui traduira « Moïse était un homme très doux en comparaison de tous les hommes qui sont sur la terre ». Donc la Septante prête ainsi à Moïse une des qualités qui étaient les plus estimées chez les Grecs, la praotesse, donc la douceur. À la même époque, le livre de Ben Sira, le sage, donc un livre grec de nos Bibles, faisant l'éloge des hommes illustres, après avoir passé en revue Abraham, Isaac et Jacob, écrit au sujet de Moïse, Dieu lui donna des commandements pour son peuple et lui fit voir quelque chose de sa gloire. Dans la fidélité et la douceur, il le sanctifia. Donc la notion de douceur qui apparaît ici comme qualité associée à l'expérience de Moïse. Voilà. Il le choisit parmi tous les vivants et lui fit entendre sa voix. Voilà. Alors donc cette perception de Moïse, l'homme le plus doux que la terre ait porté, eh bien elle prépare évidemment, du côté des évangiles, cette révélation qu'en Jésus, Dieu se fait doux et humble de cœur.
Frère Jean-Michel, merci beaucoup. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et nous irons justement dans le Nouveau Testament et dans l'évangile de Matthieu. Regardez ce verset où il est dit que Jésus est doux et humble de cœur.